Je sais pas si je vais réussir. Déjà, rebonsoir avec le micro. Je ne sais pas si je vais aider à comprendre, mais en tout cas, on peut au moins lancer la discussion. C'est un film qui est vraiment très, très étonnant, qui est aussi étonnant que peut l'être Second Life. Alors, que vous dire? Peut-être on pourrait se centrer un peu sur les personnages principaux que sont les Furries et puis les Goréens, hein. Parce que moi j'aime bien le mot de Goréen parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était pas dans Second Life. Quand je suis allé dans Second Life et que j'ai entendu parler de Goréen, j'ai été assez étonné. Pour moi, un Goréen, c'était un habitant de l'île de Gorée. Point. Une île qui se trouve à 20 minutes de bateau du Sénégal et puis qui est connue pour être l'île aux esclaves. Et donc j'ai été assez surpris d'apprendre qu'on pouvait être goréen d'une toute autre façon. Et j'ai, bah, comme ceux qui ont vu le film ou qui vont un peu sur Second Life, j'ai un peu creusé la question et je me suis aperçu que les Goréens et les Furies sont des gens qui viennent un peu d'ailleurs, hein, un peu comme ceux qui viennent du Sénégal d'ailleurs, ou d'autres pays. Alors les Goréens sont des... Le mot vient d'un cycle de livres qui s'appelle le cycle du livre de Gore, qui a été écrit par un auteur de science-fiction. C'est pas la meilleure science-fiction qui soit, mais bon, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais bon, ça peut quand même se lire. Alors dans le cycle de Gore, vous avez une série de... une société qui est décrite, qui est régie par des castes, avec des vies... Les gens ont des vies très très réglées. On est dans une caste et puis on n'en sort pas. Et leur vie est réglée jusque dans leur vie privée et intime, puisque les relations entre les hommes et les femmes sont des relations de type sadomasochiste. Alors, bon, pas toutes, hein, puisqu'on estime que, au moins c'est Wikipédia qui a compté ça, moi je ne me suis pas livré à ce calcul, qu'une femme sur 40 seulement est esclave. C'est peut-être une bonne nouvelle. Les Furies viennent aussi d'ailleurs, ça vient de la capacité des geeks, on va lancer le mot quand même, de jouer avec leurs images et de faire du cosplay. Alors ça vient des confins des années 70. Et ça commence dans les années 80, les gens commencent à se dire qu'ils ne sont pas exactement ce qu'ils sont, ce qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais ils se découvrent plutôt comme des chats, des tigres, des lionceaux, des zèbres, enfin du moment qu'il y a des poils, c'est intéressant. Et c'est pas tellement étonnant que l'on retrouve à partir de cette idée de poils les relations sadomasochistes, parce que vous savez qu'on a quand même ce monument de la littérature qu'on appelle la Vénus à la fourrure. Eh bien, ces gens-là jouent avec leurs images, ils font des conventions où ils se retrouvent et ils posent des questions, tout comme les Goréens, hein, ils nous posent des questions autour de l'identité. Qu'est-ce que c'est être quelqu'un? Qu'est-ce que c'est être un homme, être une femme? Est-ce que c'est aussi évident que ça? Est-ce que je ne suis pas une ballerine, par exemple, même si je pèse une centaine de kilos? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être une ballerine? Est-ce que l'on peut changer d'identité? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce qu'il faut rester avec les dictats de la société? Est-ce que ce sont des dictats ou est-ce que ce sont des choses qui nous structurent? Voilà toutes les questions que pose Second Life ou même l'Internet en particulier, puisque tout... De façon tout aussi banale, lorsque vous ouvrez une adresse email auprès d'un service, ce sont ces questions que vous vous posez, puisque vous vous demandez si vous allez reprendre le bon vieux nom de famille que l'on vous a donné, ou est-ce que vous allez reprendre votre second nom de baptême, ou est-ce que vous allez les séparer par un petit tiret ou par un point, ou est-ce que vous allez jeter tout ça à la poubelle et que vous allez vous créer une nouvelle identité. Mais est-ce que c'est possible de se créer une nouvelle identité? C'est ce dont on peut discuter maintenant.
Si vous avez des questions, des remarques à faire, je peux faire passer le micro.
Bonsoir. Donc moi, je suis vraiment, comment dirais-je, candide. J'arrive, j'atterris, on va dire. Ma question, c'est plutôt sur la votre démarche à vous, parce que déjà, je trouve ça assez étonnant comme travail. Ça a pris sûrement pas mal de temps, je suppose. Donc, vous êtes le réalisateur, c'est bien ça ?
Ah non, moi, j'ai rien. Enfin, j'ai réalisé des choses, mais pas ce film-là.
Ah bon ? Alors voilà, j'atterris complètement, j'avais prévenu. Donc, je ne sais pas à qui je m'adresse du coup.
Non, Yann Lo.
Pardon.
Je vous présenter,
Je suis psychologue, psychanalyste, et je m'intéresse aux matières numériques, à moins que ce soit à l'inverse, quelqu'un qui est tombé dans la matière numérique et qui soit devenu psychologue et psychanalyste. Enfin, je ne sais plus trop.
Ah, voilà.
Et sinon, vous aviez une question ?
Donc, vous n'êtes pas le réalisateur, vous êtes celui qui propageait ce film. Et, non, pas du tout. Oui, ça fait partie de ma question, je crois. C'est-à-dire que le réalisateur en question, une équipe, une volonté de départ, c'est 2009, c'est le Pays de la Loire, c'est français, c'est une étude, c'est... Voilà.
Alors, c'est français et ils ont commencé par explorer pendant une année Second Life, en prenant contact avec les avatars des... Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, des personnes qui étaient présentes sur le réseau. Et après, ils en ont approché certains et ils ont pris contact et ils ont fait un parcours dans le monde réel, là, pour le coup, pour rencontrer ces personnes, pour celles qui étaient d'accord de les rencontrer et faire le documentaire. Donc.
C'est un ovni, quand même,
non ? Non, c'est un ovni.
Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, on a l'impression que c'est souvent une espèce de porte de sortie pour des gens qui vont pas bien, genre des gros qui veulent plus être gros ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des gens qui reproduisent la même chose que dans la vie avec les Goréens, là, ce que vous disiez là, genre le système d'esclavage, c'est pas forcément quelque chose auquel on pourrait rêver dans un monde idéal, où les gens à la fin qui, en fait, c'est bien ça si j'ai compris, c'est qu'ils reproduisent un peu l'espèce de monde qui se sont créés dans la réalité, ils le reproduisent dans Second Life. Donc en fait, on se demande un peu à quoi ça sert ou quel rôle ça a en fait dans leur vie, ce monde parallèle là. Je sais pas si c'est
un bac à sable, hein, Second Life ou l'Internet en général. C'est-à-dire que les gens y vont parfois pour mettre en jeu des fantaisies ou des positions imaginaires ou des fantasmes. Et puis certains découvrent que ça marche en fait comme un miroir. Hein, et ils se découvrent où ils trouvent une confirmation de ce qu'ils pensent être. Je suis vraiment comme cela. Des fois même le miroir marche à l'envers, c'est le miroir qui dicte l'identité. On le voit avec le monsieur qui se dit être un chat, hein, et qui donne des identités aux personnes qu'il croise en disant, bon, toi on va découvrir ton vrai, ton moi caché, hein, on va te dire si tu es plutôt un ami des furies ou un furies ou pas, et quel genre d'enveloppe, quel genre de forme est-ce que l'on peut te donner. Donc ça marche comme une espèce d'usine, c'est un lieu de construction, de réélaboration du self, mais ça peut être aussi un lieu d'aliénation. Vous pouvez vous trouver pris dans des relations sadomasochistes, c'est sans doute très intéressant au début, mais à la fin ça peut piquer un peu. Lorsque le jeune homme s'en va en disant ça va être formidable, je vais avoir mes trois filles et puis elles m'obéiront au doigt et à l'œil, on frémit un peu parce que dans les trois filles, il y a une fille qui a une fille elle-même. Et on se demande quel type de relation est-ce qu'il va bien pouvoir construire avec ces personnes-là. C'est pas des relations tout à fait normales. Donc il y a une ambiguïté parce que tant que ça reste en ligne, ça peut être considéré comme des jeux. Entre adultes consentants, mais à partir du moment où ça déborde du réseau, eh bien là, ça pose de nouvelles questions et de nouveaux problèmes.
Moi, j'ai trouvé, enfin, j'ai pas l'habitude de voir ça, etc., mais j'ai trouvé qu'il y avait enfin, je suis étonnée de trouver qu'il y a quand même une liberté parmi ces gens, oui, une liberté d'agir, et même une réalisation pour certains, le pasteur qui fait ses prêches, etc., enfin, ça lui donne un endroit où il peut agir, se réaliser un peu, etc., enfin, ça m'étonne, quoi. Voilà, je trouve pas que du mauvais.
Non, mais il y a du mauvais et du bon, mais c'est pas l'internet qui l'amène, c'est les gens qui amènent ce qu'ils sont en ligne. Par exemple, parmi les choses, vous parlez de réalisation, hein, ça me faisait penser à des jeunes gens qui jouent à un jeu vidéo, qui s'y découvrent une certaine expertise, qui sont reconnus par leur père à l'intérieur du jeu comme d'excellents joueurs, et qui gravissent petit à petit les échelons non seulement de la communauté, mais du panthéon, et qui se retrouvent du panthéon des joueurs, hein, et qui se retrouvent à chaque connexion pratiquement acclamés. Et des fois, il y a même des effets paradoxaux. Il y a un type qui s'appelle encore dans World of Warcraft Leroy Jenkins, et qui est devenu célèbre parce qu'il a fait une bourde énorme dans le jeu. Et pendant des mois, il n'a plus été capable de pouvoir jouer avec son personnage qui s'appelait Leroy Jenkins, parce que tout le monde lui envoyait des messages personnels. Et les gens de sa guilde disaient, bon, Leroy, voilà, t'as un courrier de ministre, faut que tu choisisses, quoi. Ou tu joues avec nous, ou tu réponds à tes fans, mais faut choisir. Et ce type-là a même eu, quand Blizzard a édité les cartes du jeu vidéo, les cartes à jouer de World of Warcraft, il y a une carte qui s'appelle Leroy Jenkins, qui est une carte de paladin, parce que le type jouait un rôle de paladin. Et voilà, ça permet d'avoir un peu plus que ces 5 minutes de célébrité qui avaient été prévues auparavant.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis amateur de jeux vidéo, je ne connais pas Second Life. Je me demandais si on pouvait qualifier ça de jeu vidéo. Est-ce qu'on joue à Second Life, enfin...
Il y a des jeux vidéo, on peut jouer à des jeux vidéo dans Second Life. Il y a des FPS, des first person shooters. Bon, c'est comme Ghost Recon, où je commence à vieillir, il me faudrait des titres un peu plus récents. En tout cas, bon, ce sont des FPS, mais avec une qualité graphique déplorable et une connexion, un ping qui est très mauvais. Donc on peut pas vraiment y jouer. Le jeu dans Second Life, c'est le jeu avec soi, avec l'image de soi. C'est ça la principale activité. Il y a des gens qui montent des business avec, puisque... la première millionnaire en dollars a gagné cet argent en vendant des habits dans Second Life. Comme quoi, hein, on peut en faire des choses.
Bonsoir.
Bonsoir.
Première question, j'aurais juste demandé à l'assistant s'il y a des gens qui sont sur Second Life. Juste pour avoir un reflet un peu la population ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas, ceux qui sont sur Second Life, lèvent la main, juste pour avoir une idée. Donc on a très peu de gens, en fait. Bon, c'était juste pour se resituer un peu. Et en fait, moi je me situe, enfin je connais un. Je suis sur Internet depuis les débuts, je vois les évolutions de ces systèmes virtuels. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est juste changer les référentiels par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir? Parce que si on a envie d'être dans des abstractions, si on a envie de se projeter sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre, ou d'être dans autre chose, quoi, tout simplement, on peut le faire dans la vie réelle. C'est facile de jouer un rôle, bon, on peut jouer plein de rôles. Internet facilite les choses avec cette capacité d'abstraction. Bon, voilà, une femme qui... On a vu, c'est un film... On avait l'impression que c'était un film américain. Il y a eu beaucoup de personnes assez en surcharge pondérale, on va dire. Et elles deviennent toutes... Alors, c'est curieux parce qu'elles sont toutes avec des poitrines opulentes aussi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, c'est... ça, c'était... toujours. Bon... Et ça permet de se projeter d'une manière encore plus d'aller encore plus loin, Mais est-ce que ça change les problématiques en fait finalement qu'on a toujours? Est-ce que c'est juste un reflet de la société ou ça, enfin vous, est-ce que par exemple vous pouvez identifier des comportements qu'on retrouverait pas dans la vie réelle?
Il y a des choses qui ne sont possibles qu'en ligne, mais les mécaniques sous-jacentes sont les mêmes qu'en ligne. Par exemple, lorsque vous avez un bon troll des familles qui est en train de ravager votre groupe, sur, que ce soit dans Second Life, un troll, c'est une personne qui est dans l'espace social en ligne et qui, dont le travail et le seul intérêt est de détruire le groupe pour son bon plaisir, hein, avec des tactiques diverses qui vont de l'insulte directe à des manœuvres plus sournoises. Le harcèlement en ligne ne peut exister que s'il y a Internet. Les trolls ne peuvent exister qu'avec Internet. Mais les mouvements d'emprise que les harceleurs ou les trolls mettent en jeu sont exactement les mêmes que ceux dans l'espace hors ligne. Ils sont juste plus faciles à mettre en œuvre parce que l'espace, le dispositif est pratiquement construit pour rendre possible ce genre de choses. Ça c'est la première différence. Ce qu'il est possible de faire en ligne, c'est vraiment un travail sur l'image de soi. Alors c'est un travail qui passe par les connexions récurrentes en ligne, par le fait d'utiliser toujours la même identité, parce que cette identité est toujours liée à des éléments qui sont personnels, voire même intimes, voire même inconscients, et le fait de les voir toujours passer en ligne, de les voir utilisés par d'autres personnes, peut permettre à la personne de mieux comprendre ce qu'elle met en jeu au travers de cette identité. Alors pour être un peu plus direct, si vous prenez un jeu, n'importe lequel, le joueur a le choix entre plusieurs classes. Il y a par exemple des classes qui sont fortement blindées, très lentes, très, très puissantes, et une personne qui joue de façon récurrente avec uniquement cette classe, petit à petit, peut arriver à comprendre ce qu'elle cherche au travers de toutes ces carapaces, de cette lenteur, de cette puissance, mais elle ne pourra le faire pleinement que si elle parle de ce qu'elle fait en ligne avec d'autres personnes. Tant que ça reste une activité entre soi et soi, le processus est moins évident. À partir du moment où il est partagé avec d'autres personnes, que ce soit des personnes en ligne ou des personnes de son entourage dans la famille, eh bien là, ce qui est misé dans le jeu, il peut y avoir un gain, hein, ça peut être, c'est pas à fond perdu. Alors, je sais pas si ça répond à votre question, moi j'espère.
Il y a quelque chose qui me paraît étonnant en fait dans ce qu'on a vu, c'est que vous parliez tout à l'heure du fait que les gens, une fois qu'on pouvait investir en fait entre guillemets l'espace internet, on avait effectivement tendance à se créer un avatar. Et là, on a vu des gens quand même qui se déguisaient dans la vie réelle. C'est-à-dire, pour moi, dans l'idée qu'ils considéraient la vie de Second Life comme primaire et qui ensuite se créaient un avatar dans la vie réelle. Et ça, c'est quelque part, moi, j'ai trouvé ça carrément angoissant, quoi.
Oui, mais il n'y a pas de vie réelle. Enfin, il y a la vie. C'est tout.
Vous faites peur, hein.
Non, il y a la vie. Second Life, c'est pas un truc qui est irréel. Second Life, c'est des serveurs et c'est des millions de dollars. Hein? Donc c'est pas quelque chose comme ça qui est juste dans les nuages. Donc je pense que déjà là pour le documentaire, ce sont des cas extrêmes qui ont été choisis, hein, d'une part, enfin pas, peut-être pas extrêmes,
j'espère,
mais,
hein.
Mais caractéristiques. Voilà, ce sont des personnages, on a envie de raconter une histoire avec eux. C'est, voilà. Mais le fait de participer à des cosplays, de se déguiser en tigrou ou en Pokémon, ça fait pas de vous quelqu'un qu'il faut interner obligatoirement dans le premier hôpital psychiatrique. Hein. Ça peut être considéré comme un hobby tout à fait plaisant. Après, il y a le niveau un peu au-dessus où il y a la personne qui est sur la plage avec ses oreilles de chat et sa queue qui ondule au vent. C'est les États-Unis, hein. Tout est possible. Effectivement, peut-être que là, il faudrait essayer dans Bordeaux, voir comment ça va passer. Hein. Mais aux États-Unis, ils ont cette à la fois grande tolérance par rapport à des choses qui sont un peu hors normes, et puis par rapport à d'autres choses, une intolérance radicale. Donc c'est un pays qui est très très contrasté. Ça finit sur Burning Man. Burning Man, c'est un événement. C'est indescriptible. Ils ont montré ce qui est montrable. Hein. Mais vous allez sur YouTube, vous tapez Burning Man, vous aurez des surprises. Tout le monde sait qu'ici passe des choses tout à fait étranges. Et c'est même pratiquement un processus qui est décivilisateur, puisque le type dit « J'ai fondé Burning Man, j'ai tracé une ligne sur le sable, et j'ai dit, au-delà de cette ligne, voilà, tout est possible. Moi, ce que je sais, c'est que quand on trace une ligne sur le sol, on fait un carré et on construit la cité à l'intérieur du carré. » Lui dit, la cité, elle est au-delà des limites. Il y a un truc qui fonctionne tout à fait à l'envers.
Oui, mais juste, enfin, moi, j'ai été très étonnée. Je connais un peu le phénomène Burning Man. J'étais très étonnée de voir ça à la fin d'un film sur Second Life, parce que là, pour le coup, enfin, Burning Man, c'est catalogué entre guillemets du côté des utopies, des choses un peu extraordinaires comme ça, des cités impossibles, mais où les gens se touchent et se rencontrent et viennent là et pédalent dans le désert et se prennent le sable dans la figure toute la journée. Enfin, c'est pour moi, c'est dans un autre endroit que ce monde virtuel. Bon, la remarque là à côté de mon monsieur dans la ligne était intéressante, parce que c'est effectivement, moi j'ai été très étonnée du nombre de gens qui reviennent, qui prennent contact à l'extérieur de leur ordinateur, on ne va pas dire dans la vraie vie, puisque tout ça c'est la vraie vie, mais qui décrochent leur téléphone pour appeler des gens, pour les rencontrer, pour faire des choses ensemble, voire faire des enfants, se marier, enfin. Alors est-ce que ça c'est très courant ? Est-ce que ça raccourcit le moyen de se rencontrer entre les gens ? Ou est-ce qu'on est là encore dans cette sorte de caricature américaine où tout le monde s'emmerde à passer sa tondeuse et où la vraie vie est sur la terrasse du lagon.
Oui, bon, enfin, passer la tondeuse, c'est emmerdant aussi en France. Hein. C'est courant. En fait, l'Internet est bâti sur une utopie. Et l'utopie, c'est il vous suffit d'avoir un modem et un accès à Internet et le monde s'ouvre à vous. Vous pourrez bâtir des communautés immenses sans avoir à faire plus d'efforts que d'envoyer quelques mails. Ça ne marche pas. Pour bâtir une communauté, il faut prendre son téléphone et il faut aller voir les gens. Et toutes les communautés qui marchent vraiment sont des communautés dans lesquelles il y a quelqu'un qui s'est investi, qui se sont investis de créer des liens et qui téléphone à droite, à gauche pour avoir des nouvelles de tout à chacun. Donc c'est pas tellement étonnant que les gens se rencontrent en ligne. Ça finit toujours comme ça, hein. Généralement autour d'un repas.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur justement le fait que les gens se rencontrent. Internet s'est bâti avec des ingénieurs, des gens qui ont construit des choses sans se voir justement.
Et non, pas
du
tout.
Les logiciels open source sont bâtis avec des communautés de gens qui ont travaillé un peu partout dans le monde. Et bon, après je parle pas de la relation sociale, hein, c'est juste pour travailler ensemble. Hein. Mmh. On est en dehors des liens qu'on peut tisser. Mais bon, Internet s'est construit un peu là-dessus.
Non, il faut faire la différence entre Internet et un logiciel open source, même si c'est quelque chose d'aussi grand que Linux. Internet s'est bâti autour d'une, à tout casser, une centaine de personnes qui vivaient dans un espace très très restreint. Et les premières RFC de Steve Crocker ont été faites, c'est Steve Crocker lui-même... Qui prenait son avion et qui allait dans les différentes universités en disant voilà la dernière RFC version papier. C'est après qu'on a eu des versions en ligne et les gens ne se voyaient plus. Mais au départ, les gens se causaient et connaissaient.
Quand ils ne pouvaient pas échanger sur Internet.
Non, mais c'était ARPANET. Le réseau ARPANET était en train d'être construit. Même une fois qu'il était debout et que les gens avaient les moyens de communiquer en ligne avec les systèmes de messagerie qui existaient déjà, parce que la messagerie instantanée et le mail, ça ne date pas des années 70, ça date du premier ARPANET. Hein. Et même à cette époque-là, y avait quand même un gars qui prenait l'avion et qui traversait les États-Unis de Los Angeles à Salt Lake City et qui allait discuter avec les gens. Il faut ça. Essayez de construire une communauté uniquement en ligne, en vous basant uniquement sur le mail. Si vous réussissez, écrivez le bouquin et il se vendra très très bien. Il y a des milliers de community managers qui sont sur Twitter et qui vous attendent.
En fait, c'est juste... nous, on s'en rend compte dans le milieu professionnel. L'outil est devenu le mail. On n'échange qu'avec mail et on ne rencontre jamais les gens. On arrive à échanger, communiquer, construire des choses, mener à bien des projets, faire atterrir des trucs, bon, sans forcément se rencontrer. Parfois, c'est des projets qui sont sans frontières, avec des gens dans tous les pays, et on n'est pas... On va pas boire une bière et puis on va pas échanger des trucs en dehors du boulot, quoi, hein, c'est sûr. Ça reste.
L'idée selon laquelle, par exemple, si dans une communauté vous avez 200 personnes, l'idéologie de l'Internet, c'est dans une communauté de 200 personnes, les 200 personnes ne se connaissent pas, ils sont tous éparpillés aux quatre coins du monde, ils n'ont pas d'autre contact que par le mail. Ça, moi, j'ai jamais vu ça marcher. Dans les 200, il y en a toujours quelques-uns qui vont voir les autres. Et dans les mailing lists que j'ai vu fonctionner, vous avez toujours des noyaux qui se forment entre les gens qui se connaissent parce qu'ils sont à peu près de la même région ou qu'il y en a un qui est plus curieux que les autres et qui va voir tout le monde. Et c'est ce noyau-là qui fait vivre vraiment la mailing list. Après, il y a des gens qui sont autour et qui ne connaissent pas physiquement les autres par choix, des fois, hein, mais les conversations sont animées et partent souvent de ce cœur-là.
Moi, je ne connaissais pas Burning Man et je n'ai pas compris le rapport qu'il y avait avec Second Life parce que je ne savais pas si c'était des images virtuelles ou des vraies... des images de la réalité.
D'après ce que j'ai pu lire, c'est Burning Man qui aurait donné l'idée au créateur de Second Life, en fait, le fait d'avoir vu ça. C'est pour ça qu'il l'avait mis à la fin du film, je crois.
Et donc les images,
En fait, ce que je trouvais sympa dans Burning Man, c'est que finalement, on avait l'impression que les gens avaient créé le monde que justement Linden Labs a recréé dans Second Life. Quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient habillés comme ils voulaient, ils allaient et venaient, ils ont créé une ville, ils ont tout créé de toutes pièces. Quoi. Et la seule chose qui les intéressait derrière, c'était finalement l'idéologie, c'est... vous êtes là, vous faites ce que vous faites, et c'est à peu près ce que donnent comme clé les gars de Second Life, quoi. C'est vous inscrivez dessus, vous faites ce que vous voulez. Et dans les typologies de personnes, c'est assez marrant parce qu'il y avait ceux qui venaient. Le point commun qu'ils avaient tous entre eux, c'est qu'ils abaissaient le niveau de barrière. C'est-à-dire qu'ils rentraient dedans, et c'est comme si un peu ils enlevaient leur peau, et du coup ils enlevaient la barrière qu'ils ont en fait avec les autres personnes, et tout comme Internet en fait un réseau d'interconnexion entre machines, là ils recréent un réseau d'interconnexion entre humains. Et il y avait les gens qui allaient sur Second Life parce que justement ils avaient envie de s'abstraire en fait du monde réel qui les ennuie et pour eux qui représente une source de frustration et d'ennui, genre ma femme se barre machin etc, ou plein d'autres trucs, des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui pensent qu'ils sont des chats, ou tout un tas de trucs qui sont complètement farfelus pour nous, mais finalement ces gens ils sont heureux finalement d'être dans Second Life, et après ils sont heureux de se retrouver entre eux, ils se trouvent normaux, quoi. Donc qu'est-ce que la normalité après, faut voir, quoi. Et après il y a des gens qui vont sur Second Life parce que eux ils y injectent ce qu'ils sont en fait dans le monde réel, c'est-à-dire que le pasteur ou même à la limite Burning Man, quoi, ils vont dedans pour, ils ont leurs convictions, ils vont dedans, ils les apportent, et finalement ils sont plus ou moins à l'identique dans le réel que dans Second Life, quoi. Alors que les autres, ils sont dans Second Life, ils se créent sur Second Life, et ensuite ils reviennent dans le monde réel à travers justement les conventions ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est assez rigolo la réflexion que les gens se mettent. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils font attention à ce genre de choses-là, mais ouais, c'est assez... Finalement, ils sont... c'est con, mais ils sont heureux, quoi. Enfin, à peu près.
C'est bien d'être heureux. Ce que l'on commence à découvrir un peu avec l'histoire de l'Internet ou de l'Internet en général, c'est que les gens qui ont créé l'Internet, c'était des gens aussi farfelus que cela. Alors, ils étaient sans doute brillants, hein, c'était des ingénieurs, des gens qui sortaient du MIT, mais c'était des gens qui étaient mis à l'écart de leur groupe social. Et ils ont investi vraiment le réseau comme un espace où ils pouvaient enfin être eux-mêmes, et ils l'ont investi aussi parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où aller. Et tous ces gens un peu bizarres, farfelus, avec qui à 30 ans passés étaient capables de vous réciter toute la bibliographie de je ne sais quel dessinateur de comics ou la généalogie de Batman jusqu'à la quatrième génération, eh bien tous ces gens-là ont utilisé Internet comme un espèce d'accélérateur, et ça a donné lieu à la culture des mondes numériques que l'on connaît aujourd'hui. Et parmi ces ingrédients, je parlais de Batman, il y a les fans des comics, il y a tous les utopistes qui se retrouvent à Burning Man, les fans d'ordinateurs, et tout ça, ça fait un mélange tout à fait étonnant. Et ces gens-là, la chose qui est intéressante, c'est que non seulement ils ont créé un nouvel espace pour eux, mais ils ont laissé cet espace suffisamment ouvert pour tous les autres, avec une générosité que l'on ne prouve pas beaucoup quand même, que ce soit au XXIe siècle ou au siècle précédent, avec des idéaux de partage, de liberté, de connaissances libres, etc. Un peu l'inverse d'Adopi finalement, ou de ACTA, ou des choses comme ça. Et sur Burning Man, c'est vrai que c'est un espace, c'est l'espace de la fête, donc c'est un espace de liberté, mais quand on voit comment est structuré l'espace, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est bien ordonné. Hein. Quand je pense, moi, à comment...
Plan très joli, mais absolument vide, et à part des églises où il y a des prêcheurs ou des clubs de striptease, est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est simplement ça devient un zoo pour quelques gens un peu bizarres? Et sinon, qu'est-ce qui prend le relais? Parce que j'ai l'impression que ça décline un peu. Qu'est-ce qui prend le relais de Second Life?
Alors, j'avoue que moi aussi, vu que je ne reçois pas de notifications ou de choses comme ça, je n'ai pas remis les pieds dans Second Life. Je sais ce qui s'y passe par... quelques bricoleurs géniaux comme Hugo Biwanzolnir qu'on trouve sur Twitter, qui est rennais et qui fait des choses tout à fait étonnantes, comme la rediffusion d'un opéra à l'intérieur de la cime de la bibliothèque francophone. À part ça, je ne sais pas tellement ce qui s'y passe. Il y a eu un gros buzz autour de Second Life il y a quelques années. Tout le monde devait y faire fortune, les entreprises devaient absolument y être. La mode est un peu passée maintenant. Donc, mon avis, je ne suis pas sûr que ce sont des espaces qui ont une vocation à être très très grand public. C'est très compliqué d'asseoir une identité dans Second Life. Il y a très souvent, faut faire des connaissances, faut maintenir les liens. Bon, si on n'est pas chômeur, ça devient vite compliqué, quoi.
Bonsoir. J'ai l'impression que voilà, il y avait Second Life et que bon, maintenant il y a Facebook qui se développe énormément, que bon, c'est un petit peu le réseau social à la mode en ce moment. Donc voilà, bon, même si c'est moins évolué que Second Life au niveau interface graphique, mais je trouve, enfin, j'ai l'impression que ça a pris le relais. Après, moi personnellement, je suis joueur, je joue à Warcraft 3, jeu de stratégie. Et c'est vrai qu'on a une image peut-être un peu du joueur solitaire, mais finalement je m'aperçois que dans ce jeu, je joue sur Internet et ça me permet de retrouver des gens qui me correspondent vraiment et avec qui, voilà, j'ai un dialogue, avec qui avec le casque et le micro on se parle, et ça crée quand même un lien et on n'est pas isolé finalement.
Voilà. Le jeu est une activité sociale, hein, c'est fait pour jouer avec d'autres personnes. C'est très très rare de jouer... De jouer seul, à part ceux qui s'adonnent au solitaire de Windows, mais bon, ça existe, hein. Maintenant le moindre jeu permet d'être en contact avec d'autres, donc oui, il n'y a pas de s'il faut le dire, jouer à un jeu vidéo n'est pas désocialisant et ça ne met pas la vie psychique de qui que ce soit en danger grave, ni même en danger bénin. Donc vous pouvez continuer. Non.
Bonsoir. J'avais pensé à ma question avant que la personne dise que Second Life était désuet et le film avec un petit peu. Toutefois, donc je connais pas Second Life hein, et je me demandais pour revenir sur la question de l'identité, s'il s'agit d'une autre identité ou d'une identité ou de son identité élargie en fait, qu'on pousse ou qu'on installe dans un autre monde. Voilà, s'il y a une coupure en fait et qu'on se permet d'être différent ou qu'on désire être différent, ou si en fait on est soit en élargi, je sais pas comment le dire autrement.
On va faire une réponse de Normand, c'est les deux, mon général. Hein. Il y a des gens qui se permettent d'être tout à fait différents en ligne. Par exemple, banalement, ce sont des hommes, ils se présentent comme des femmes, ils jouent à World of Warcraft, et ce sont des elfes graciles et gracieuses qui courent dans les forêts. C'est assez banal. Et puis même sans changer de sexe, il y a des personnes qui se montrent ou beaucoup plus aimables en ligne, ou beaucoup plus agressives, hein, ou qui mettent en jeu en ligne des comportements dont ils pensent qu'ils ne les ressemblent pas beaucoup. Par exemple, ils peuvent être beaucoup plus abandonnants, ils ne finissent jamais ce qu'ils font sur le réseau, ou ils prennent des engagements qui ne tiennent pas. Et comme tout ça, c'est dans l'espace du jeu, parce que c'est souvent dans les espaces de jeu que ça se passe, ben, en un sens, ils ont un peu raison, ils disent que ça ne prête pas tellement à conséquence. Par ailleurs, il est difficile d'être vraiment quelqu'un d'autre que soi-même. Hein, ça, on ne peut pas s'inventer deux fois. On est ce qu'on est, et les gens mettent toujours en jeu. Ils se mettent toujours eux en jeu, c'est pas une identité qui est totalement inventée, elle a toujours des liens avec leur propre histoire. Donc la difficulté ou le challenge, hein, c'est de faire en sorte que toutes ces identités ou ces façons d'être soient de mieux en mieux intégrées à la personne, et qu'il ne soit pas, que le réseau ne soit pas juste un débarras dans lequel on se permet d'être outrageusement agressif, par exemple. Voilà, c'est Internet, alors, donc je fais ce que je veux. Si j'ai envie de poster des insanités sur les murs des gens de Facebook ou de polluer le chat général de tel jeu, je le fais parce que j'ai envie. Ce qui est souhaitable, c'est que ce que l'on est en ligne et ce que l'on est en dehors du réseau puisse s'articuler de la façon la plus harmonieuse possible.
Une question de ma voisine de droite qui est un peu timide pour prendre le micro. C'est, est-ce qu'il y a un profil type entre guillemets du joueur de Second Life?
Alors ça, je sais pas. Il faudrait voir. Je sais pas. Je connais même pas d'études qui étaient faites sur ce thème-là. La difficulté avec les joueurs, hein, c'est qu'ils ont été tellement ostracisés que quand le psy arrive en disant « Bon, les gars, il faudrait qu'on fasse un questionnaire pour voir un peu qui joue, qui joue pas », ils sont très, très méfiants, quoi. Ils n'aiment pas beaucoup ou ils répondent n'importe comment. Hein, ce qu'ils aiment bien saboter, ce sont des joueurs après tout, et où ils disent bon, ça fait quand même le 15e étudiant de psychologie en 4e année qu'on voit passer, on en a un peu marre et donc on répond pas. Donc ce qui fait qu'on a très très peu de données sur Second Life. Moi je n'en connais pas.
Ouais, ça fait un peu bête en cage.
Non, ce ne sont pas des bêtes de foire, ouais, qui sont sur le réseau, hein, qui sont sur Second Life.
La façon dont vous l'expliquez, c'est un peu la sensation que pourraient avoir les gens, en fait.
Bah, ils se vivent comme ça. Ouais. Ils ont raison. Sur la cinquième, il y a un documentaire qui est passé. Il y a un philosophe qui arrive devant une image en 4x3 où il y a des gamers qui sont sur une ligne d'ordinateur à une LAN party. Et l'exclamation qu'il a, au lieu de dire « Waouh, c'est Counter-Strike, ils doivent bien s'amuser », ils disent « Ils ont des têtes d'abrutis ». Bon, les gens, ils en ont un peu marre quand même d'être pris pour des abrutis ou des toxicomanes. Rien. Bah, j'y suis plus. Je m'y étais baladé pour essayer de comprendre comment ça marchait, parce que en entendre parler ou lire la page Wikipédia, ça suffit pas. Donc c'est intéressant d'avoir les sensations, de voir ce qu'il est possible de faire, de voir ce qui est ennuyeux. Par exemple, dans le film, il y a une séquence où on voit le type qui se cogne contre une porte. Hein. Bah, le jeu, il est mal fait, quoi. Dans un FPS, personne ne se cogne dans une porte. Hein. Les gens, ils passent dans les espaces sans difficulté. Mais le fait de se cogner répétitivement dans une porte, d'avoir une démarche qui soit celle de Robocop alors qu'on est sur des talons aiguilles de 15 cm, bah, tout ça, ça donne à penser. Ça, ou ça plaît, ou ça déplaît. Et ce sont ces feedbacks qui sont intéressants à comprendre pour mieux comprendre ce que l'on fait quand on est en ligne, ou ce que ça nous fait. Oui. Donjons et Dragons. Mais c'est pas un maître de cérémonie, c'est un maître de jeu. C'est californien. Et ça vient de cet espace, de tout cet imaginaire d'utopie, de nouveaux mondes, de nouvelles frontières. Et à partir du moment où le réseau et les utilisateurs ont eu des machines assez puissantes pour faire tourner un environnement pareil, eh bien, il y a un monsieur qui nous a apporté la bonne nouvelle, hein, qui a créé Second Life pour nous permettre, ou pour permettre aux gens qui voulaient jouer avec de s'y installer. C'est un espace qui est hybride parce que c'est comme un jeu vidéo, mais on n'a pas de choses à faire. Hein. Vous arrivez dans Second Life, vous n'avez rien à faire. Vous arrivez dans un jeu comme Counter-Strike, vous avez à vous équiper rapidement et aller tuer le premier type que vous croisez. Ça fait deux tâches importantes. Bon. Dans Second Life, vous pouvez passer une heure à créer votre personnage. Est-ce que je lui fais la peau comme si... Ah ben, est-ce qu'il a une peau déjà? Est-ce que je fais un homme, une femme? Est-ce que je fais un espèce de félin? Des grandes jambes, des petites? Est-ce que je mets une mini-jupe? Non, ça va pas aller. Une longue robe? Ah oui, mais il n'y a pas de robe, alors il va falloir l'inventer ou l'acheter. Est-ce que j'achète de l'argent ou pas? Donc il y a plein de questions qui se posent dès le début du jeu. Et, bah oui, on achète des choses pour de vrai. Les talons aiguilles, c'est pas gratuit, hein. C'est la vraie vie, hein. Oui, ben oui, il y a le Linden dollar qui est indexé sur le dollar. Ben bien sûr. Oui, oui. Eh bien, si vous produisez des objets, ça va dans votre poche. Mais il y a une partie qui va dans la poche de Monsieur Second Life, quand même. Donc si vous ne voulez pas avoir la démarche chaloupée à la Robocop, mais avoir une démarche fluide, élégante à la Naomi Campbell ou que sais-je encore... Faut donner de l'argent. Et si vous voulez pas donner de l'argent, vous apprenez à coder et vous faites les choses vous-même.
Est-ce que c'est adressé à toutes les couches sociales ou c'est plutôt les couches moins aisées intellectuellement
Je pense que tout le monde des QI de 140 au plus faible. Du moment qu'on sait lire, on peut être dans Second Life. Non, c'est pas... ça touche vraiment toutes les personnes, de la même manière que sur Internet, on trouve tout le monde. Il y a... vous pouvez avoir un costume de policier et vous faire passer pour un policier et donner des amendes. Si vous tombez sur des gens qui veulent bien payer, bah, ils paieront. Hein. Donc voilà, c'est une des ambiguïtés du système. Et puis après, il y a la police de Second Life qui peut intervenir si vous dépassez vraiment les bornes et qu'il y a des rapports qui sont faits au sujet de votre comportement. Il y en a eu, mais à ma connaissance, il n'y en a plus. La difficulté, c'est que c'est un espace de jeu. Donc les gens peuvent jouer à la psychanalyse, mais pour ça, il n'y a pas besoin d'un vrai psychanalyste. Hein. Alors, j'ai pas eu vent de ça. Dans Second Life, non. J'ai pas entendu une chose pareille.
Oui, on a entendu plusieurs fois, il me semble que ce soit dans le film ou dans la salle, l'idée qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans un jeu comme Second Life. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, j'imagine. Enfin, vous parliez de limites qui sont posées avec une police de Second Life. Comment ça marche quand on rentre? Il faut en gros signer un contrat où on nous dit qu'il ne faut pas transgresser de telle façon, de telle façon, de telle façon, où on nous dit rien, enfin je sais pas, par exemple, il est question du porno souvent dans le film. Ah oui. Quelles sont les limites et est-ce qu'il y a des moyens de les transgresser? Qu'est-ce qu'il arrive si on les transgresse? Est-ce qu'on est viré de Second Life?
Les limites, c'est le code. quand vous inscrivez sur Second Life, vous avez bien entendu un contrat qui vous est soumis et bien entendu, vous ne le lisez pas. Descendez l'ascenseur.
J'accepte.
Comme vous avez fait sur Facebook ou sur vos applis iPhone ou que sais-je encore, vous allez jusqu'en bas et vous cliquez parce que vous n'allez pas imprimer 30 pages pour les lire quand même. Bon. Donc, ce qu'il y a dans le contrat, je ne saurais pas vous le dire parce que moi, j'ai pris l'ascenseur, je l'ai amené jusqu'en bas. Je ne saurais pas vraiment vous dire jusqu'où vont les limites parce que je sais que les choses peuvent aller très très loin. Vous avez dans Second Life des étendues immenses qui sont couvertes uniquement de sex shops et de boutiques porno. Hein. Et quand vous y passez, vous pouvez, si vous avez le temps de faire un peu de shopping, vous achetez un pénis de 1m20 ou de 5 cm, ou vert ou bleu. Vous pouvez coucher avec des animaux, des femmes, 1, 2, 5, 10, des hommes. Tout est possible. Tant que ça reste dans le domaine du jeu et que ça ne fait pas intervenir des mineurs, il y a une version pour les mineurs dans Second Life, les choses peuvent aller aussi loin que vos fantasmes le désirent.
Et il y a un contrôle sur ça, sur l'âge du joueur, comme il y en a maintenant sur les jeux d'argent en ligne, ils font... Enfin,
oui, le contrôle, c'est quand vous descendez l'ascenseur, vous dites j'ai plus de 15 ans.
Ouais, donc c'est pas comme sur... C'est pas plus...
Pour les mineurs, le meilleur contrôle, ça s'appelle un parent. Hein. Faut pas compter sur Second Life.
Oui, mais souvent les enfants, ils savent mieux se servir de l'ordinateur que les parents. Et...
C'est très dommage. C'est pour ça qu'il faut que les parents apprennent à se servir des ordinateurs.
Oui, mais...
Alors, ça dépend vraiment des endroits, mais quand il s'agit de mineurs, il ne faut pas compter sur le modérateur. Hein. Le bon vieux parent de base, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
Oui, donc j'ai entendu que Second Life, je reviens sur mon truc de tout à l'heure, Second Life touche à sa fin. Monsieur a cité tout à l'heure Facebook, dont on parle pas mal. Est-ce qu'on peut penser que ça va aussi avoir une durée de vie assez courte? Et est-ce qu'on peut penser que ces rencontres virtuelles sont à court terme et peut-être vite dépassées par ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on se rencontre dans le virtuel, on finit par souvent se rencontrer dans la réalité, si vous me permettez de faire cette distinction.
Probablement hein, que Second Life va disparaître un jour. Quelque chose d'aussi solide que Usenet a fini par mourir. Enfin, c'est pas encore mort, mais c'est tout comme. Alors que dans les années 80, Usenet, c'était le centre du monde. C'était la Rome des mondes numériques. Personne ne pensait que ça pourrait mourir un jour. Bon. Pourtant, c'est le cas. Donc, Second Life mourra très certainement. C'est juste une question de temps. Et même Facebook finira par disparaître tôt ou tard. Ce qui n'est pas possible d'estimer, c'est de savoir quand et de quelle manière. Pardon ? Alors, Usenet, c'était... Usenet était un système de groupe de discussion qui a été créé par 4 universitaires étudiants américains d'une vingtaine d'années autour d'un barbecue. Ils avaient à l'époque à leur disposition ARPANET, qui était le proto-internet. Mais pour pouvoir discuter sur ARPANET, il fallait absolument avoir un accès à une université américaine. Eux, ils étaient américains, donc tout allait bien pour eux. Mais les Américains rêvent toujours de choses plus grandes que ce qu'ils ont. Et donc, ils voulaient un réseau intergalactique, quelque chose qui permettait aux gens de se connecter où qu'ils se trouvent dans la galaxie. Parce que c'était des trekkies quand même. Ils avaient entendu les leçons du Captain Kirk. Donc, ils ont bricolé à partir de la dernière version d'Unix un système qui permettait d'échanger des messages. Et c'est un système qui est basé sur la libre coopération. Chaque personne, pour autant qu'elle ait la connaissance nécessaire et suffisante, peut mettre en place un serveur Usenet qui a pour fonction de redistribuer tous les groupes ou tous les messages qu'il reçoit. Ce qui permettait une diffusion extrêmement rapide des messages, alors que sur ARPANET, à l'époque, il fallait attendre des fois quelques temps avant que les messages arrivent à destination. Et sur ce Usenet, il y a toute une vie collective qui a bourgeonné, qui a produit son folklore, ses règles, beaucoup de mots qu'on utilise maintenant ont été créés sur Usenet, et c'était l'endroit où il fallait être quand on arrivait sur le réseau, quand on arrivait sur Internet, là où il fallait se présenter, c'était sur Usenet. Quand Tim Berners-Lee invente le web, le premier endroit où il va, c'est sur Usenet, et il dit, les gars, j'ai inventé un truc, ça ressemble à rien, mais voilà, essayez, on verra bien ce que ça donne. Hein. Et lorsque Jarkko Ukkarinen invente l'IRC, il va sur Usenet, il dit « Oh, j'ai fait un truc, je ne sais pas ce que ça vaut, regardez. » Et lorsqu'un monsieur qui s'appelle Linus Torvald en a marre de coder face à son mur un nouveau système d'exploitation, il se tourne vers Usenet, il dit « Ah, j'ai inventé un truc, il faudrait essayer de voir comment ça marche. » Et c'est donc, ça a été la colonne vertébrale des mondes numériques pendant des années. Et maintenant, c'est juste un endroit où on dépose des fichiers pour le téléchargement légal et illégal. Hein, c'est devenu une poubelle, une immense décharge, alors qu'avant, c'était un espèce de forum vivant où les gens se rencontraient, discutaient, s'engueulaient, faisaient la guerre. Il y a eu des guerres énormes sur Usenet qui ont failli faire tomber l'Internet tout entier. Les petites querelles qu'on a sur nos pages Facebook, c'est de la gnognotte à côté. Il y a eu des guerres mondiales sur Usenet. Donc Usenet, c'est bon. Ou c'était bon. Bah, ça dépend à quel moment on est arrivé sur Internet, en fait. Oui. Hélas, oui, le monstre Google a bouffé les archives Usenet. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été publié sur Usenet est maintenant disponible en archives Google. La mauvaise nouvelle, c'est que le nom Usenet se perd et que même l'histoire de Usenet se perd petit à petit. Pardon ? ...1979, Usenet, les premiers groupes. Voilà, 20 ans, ouais. C'est, et puis ça a commencé à décliner à partir de 2002-2003. Ça a été le, à partir du moment où le Web 2 a commencé à monter en puissance, Usenet a commencé à décliner. C'est toujours la même histoire, hein. Rome, les barbares. Voilà. La science-fiction, c'est pas demain, c'est cet après-midi. Si vous avez un iPhone dans votre poche, vous avez des applications de réalité augmentée qui permettent de faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles il y a 5 ans, ou qu'on n'imaginait même pas. Il y a 5 ans, personne n'y pensait. Donc il y a une accélération qui est tout à fait extraordinaire. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça peut aller très très vite. On encaisse quand même assez bien le choc. Quelles que soient les nouveautés qui arrivent, les nouveaux services, les nouvelles applications, bon, mais finalement, on s'y fait, on fait le tri, on garde ce qui est bon ou ce qui est utile, et puis le reste, on l'abandonne. Alors, si j'étais américain, j'aurais une réponse brillante à ça, mais je suis que français, donc le net de demain, j'attends. J'attends de voir demain, j'ai aucune idée... Lorsque les blogs sont arrivés, j'étais encore sur Usenet. Hein, et pour moi, Usenet, voilà, j'étais dans Rome. Hein, et je me disais, il n'y a que des narcissiques, ça ne va pas marcher du tout, les blogs. Hein. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai dit, ça ne marchera pas. Donc maintenant, j'ai renoncé à faire des prédictions. Quoi. Quand ça arrive, je regarde et je laisse les autres faire les prédictions. Pardon ? Bah, oui, parce que comme c'est très rare les gens qui détruisent leur identité en ligne. Ça ne coûte rien de la laisser en ligne, donc généralement on la laisse. Quand les gens la détruisent, c'est que il y a quelque chose qu'ils cherchent à effacer. C'est pas à tort ou à raison, mais c'est extrêmement rare. Il faut des sous. Hein. Pour que ce soit beau, il faut des sous. Pour que ce soit beau, il faut payer par exemple un développeur, un graphiste, ou alors vous avez tous les talents et vous le faites vous-même. Mais pour avoir quelque chose qui est un peu de la gueule comme l'église de ce monsieur, il a fallu qu'il mette de l'argent quand même. Hein. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ah non, ça n'a rien à voir avec les prix dans la réalité, mais il y a des choses marrantes. Vous pouvez acheter une paire de chaussures dans Second Life et vous recevez la même à votre adresse postale. Il y a des jeux comme ça qui sont faits. Mais bien sûr, la paire de chaussures dans Second Life, une paire de Nike coûte moins cher que celle que vous achèterez dans la rue Sainte-Catherine. Mais elle coûtera plus cher que la paire de chaussures de base que vous pouvez trouver n'importe où.
Alors, est-ce que c'est une progression entre Second Life et Facebook, ou alors c'est une régression ?
Ah, c'est ni l'un ni l'autre, ce sont des espaces qui sont différents. Hein.
C'est vraiment différent.
Ah oui, c'est très très différent. Second Life, c'est tout petit. Facebook, il y a plus d'un demi-milliard d'individus. Il y a 2 milliards d'internautes. 600 millions de gens sur Facebook. Quand même, c'est des échelles qui sont totalement différentes. Et puis, on n'y fait pas les mêmes choses. C'est compliqué de prendre une photo et de l'envoyer à partir d'un téléphone sur Second Life. Je ne sais même pas si c'est possible. Alors, la bonne nouvelle avec l'Internet, c'est que c'est un lieu où on peut se former. Et ça, je crois que c'est quand même une nouveauté. Pour un coût assez dérisoire, les questions que l'on se pose sur l'Internet sont documentées sur l'Internet. Parce que c'est une culture qui a une espèce de... Qui a comme idéal l'autodocumentation. Tout ce qui est fait en ligne est documenté. Et c'est une habitude qui vient de des cousins programmeurs. Bon. Alors, donc là, c'était pour dire que les questions que vous posez sur le réseau, vous pourrez facilement y trouver des réponses toujours sur le réseau. Ensuite, la difficulté des gouvernements, c'est qu'ils ont 2-3 trains de retard par rapport à la culture de l'Internet. Ils ont laissé s'installer le réseau, ils ont aidé à l'installation du réseau parce qu'il faut bien des câbles en dur pour passer les transmissions. Hein, donc les gouvernements ont participé à la construction de cela. Mais ce qu'ils ont largement sous-estimé, c'est la vie sociale qui s'établit en ligne. Hein, et que cette vie sociale est une vie qui est quand même alimentée par toute une culture qui n'est pas la culture mainstream de la rue. C'est la culture du hacking, du détournement, du retournement, du partage libre, de la copie libre, etc., etc. Et ça bouleverse quand même pas mal de données. Alors, ils ont pris 2-3 trains de retard, mais ils apprennent vite. Hein. Ce sont des hommes politiques qui ne sont pas plus idiots que les autres. Ils ont même tendance à apprendre vite quand il s'agit de maîtrise de pouvoir. Et donc là, ils sont en train de rattraper les trains. On a vu le train Hadopi qui est passé, je suis désolé, hein, mais j'en reparle. Le train ACTA est en train d'arriver en gare. La difficulté de ces mondes, c'est que ces mondes ont été créés par des hommes dans des républiques avec un idéal de liberté, mais ils ont une partie qui est sombre. Le même monde qui peut servir à distribuer librement de l'information peut servir à assujettir, contrôler, maîtriser des citoyens un à un, de façon extrêmement précise. Et donc là, on est sur un moment de bascule où les choses vont s'organiser, se décider de ce que l'on va faire de ce réseau. Est-ce que l'on va garder le réseau avec ce qu'il a de précieux, à mon sens, comme espace de liberté, même si c'est dérangeant, c'est toujours dérangeant, la liberté, parce que vous avez des gamins qui font des choses qui sont un peu bizarres pour les grandes personnes sages. Où est-ce qu'on va s'en servir comme espace de surveillance. Voilà. Je le parierai pas à ça. Oui, mais le risque, c'est qu'on ait un Internet à deux vitesses, avec d'un côté des utilisateurs avertis qui, comme dans le samouraï virtuel, vont passer entre les sous-couches du réseau et vont se balader très tranquillement, et puis de l'autre, le citoyen de base qui, lui, aura droit à un Internet très, très limité et puis qui sera content de ce que les tuyaux lui donneront. Non. L'idée que finalement l'information de grande va diffuser, j'y crois pas beaucoup. Il faut que les gens aient envie d'aller vers l'information. Il n'y a qu'à voir le nombre de parents qui, par exemple, ne savent pas comment fonctionne World of Warcraft alors qu'ils payent 19,90€ tous les mois. Je crois que c'est 14,90€. Bon. Et ils ne sont pas allés regarder dans comment ça marche. Donc,
Je crois qu'on déborde un peu du sujet là.
Le monsieur disait que le piratage, ça a toujours existé et que ça marchera toujours. Bon, c'est ce que disaient les corsaires et les pirates aussi. Mais, bon, moi, j'ai pas cet optimisme-là. Hein. Bon, on verra. Oui, mais les premières lettres sont parties. On va voir les gens devenir frileux. Oui, mais elle ne va pas rigoler. Oui, on verra. Non, mais moi, je le sais, mais combien le savent ici? Ah bon.
Bon, si vous avez encore des questions sur Second Life,
peut-être on va pouvoir uploader ou downloader directement dans Second Life.
J'en ai une quand même, une dernière. Dans le film, notamment à travers le personnage du révérend, les documentaristes ont choisi de montrer ce monde comme une quête spirituelle. On le voit dans beaucoup des personnages. Et en montrant des mondes qu'ils construisent, qui ressemblent quand même sensiblement au monde qui les environne réel. Qu'en est-il du rapport à la mort, par exemple, dans Second Life, de tout ce qui touche au spirituel? On a l'impression qu'il y a presque un rapport religieux à ce jeu aussi à l'intérieur.
Je crois qu'il y a un côté religieux, mais qui, je crois, tient au fait que c'est l'imaginaire chrétien qui est utilisé dans Second Life, il y a l'autre vie. Mais dans tous les mondes numériques en général, il y a toujours la promesse d'une nouvelle apesanteur, d'une élévation en upload, hein, et puis en download. Donc il y a ce qui était en haut qui vient en bas dans le monde de la chair, alors que ce qu'on met en l'air, c'est un monde, sont des choses qui sont exemptes du péché de la chair. Et puis il y a aussi l'idée que c'est un monde calculé, c'est le monde des nombres, de la perfection, et tout ça, ça cadre parfaitement avec l'imaginaire chrétien.
Ce qui était assez troublant, c'est que bon, il y a une liberté totale apparemment dans Second Life, dans ce qu'on peut y créer, mais qui recrée exactement ce qu'ils ont dans la réalité presque. Enfin, à part des oreilles de chat.
Mais je crois que le révérend, il n'a pas d'église à lui. Là, il a quand même une église qu'il peut agrandir comme il veut. Alors, je pense que ce sont des gens qui essayent de faire en ligne des choses qu'ils n'arrivent pas à faire tout à fait dans le monde habituel, et que ça leur sert un peu à ça. C'est une espèce d'extension dans laquelle ils peuvent faire de nouvelles choses.
À moins que vous ayez d'autres questions, on va peut-être conclure, non ?
Je tiens un blog qui s'appelle Le Psy et Geek. Je suis psy double cœur, donc psyetgeek.com. Et puis voilà.
Et il y a un article sur The Cat, The Reverend and The Slave. D'ailleurs.
Je ne me rappelle pas, non. Alors avant qu'on se quitte, je vais faire un peu de pub. Il y a un événement qui s'appelle Digiborigène qui aura lieu à la fin du mois de... On est quoi, janvier ? À la fin du mois de février, je crois que le 24 ou le 25, mais comme je m'en mêle toujours dans les dates, je ne saurais pas vous le dire. Mais ça se passera à Talence, et un vendredi à partir de 18h. Et on discutera des matières numériques, de la manière dont elles peuvent nous aider à penser ou pas, hein, puisqu'il y aura par exemple une enseignante qui utilise Twitter et Facebook avec des terminales et des choses comme ça. Vous y êtes cordialement et chaleureusement invités. Ouais, psyetgeek.com.
Merci.
Merci à vous.